Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Bienvenue à Territoire d'Info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Grosse semaine à l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest qui reprenait ses travaux le 3 février. C'est également cette semaine que la ministre des Finances présentait et déposait le budget du territoire pour l'année 2021. On vous présente les faits saillants. Je reçois également à l'émission le rédacteur en chef de la salle des nouvelles de Média Ténois, Baptiste Foisy, qui nous présente son analyse du budget. J'ai aussi obtenu certains commentaires de la part de députés dans le hall de l'Assemblée législative. Du côté du Nunavut, un protocole d'entente a été signé par un groupe de femmes inuites et la GRC. Mon collègue Denis Laure nous en parle. On apprenait cette semaine que la deuxième dose du vaccin Moderna ne sera pas livrée comme prévu au territoire du Nord-Ouest. Ma collègue Marie-Soleil Desautels nous donne les détails. Les territoires du Nord-Ouest ont une nouvelle commissaire aux langues officielles. Mon collègue Baptiste Foisy s'est entretenu avec elle. Et finalement, le fameux château de neige du Snow King sera bel et bien érigé cet hiver pour accueillir les visiteurs à un festival qui a été repensé et rebaptisé. Pas de déficit, pas de coupe budgétaire et pas de hausse de taxes cette année au territoire du Nord-Ouest. C'est la promesse de la ministre des Finances, Caroline Vazonek, qui a prononcé le discours du budget jeudi après-midi, 4 février. Mais la ministre ne s'en cache pas, l'économie territoriale est chancelante, les revenus de l'État sont en baisse et cette approche budgétaire n'est pas durable.
Long-term challenges such as maturing diamond mines, an aging population and a lack of economic diversification or private sector activity will depress future growth unless there are substantial structural changes.
La ministre des Finances, Caroline Vazonek, indique ici que la croissance sera ralentie par des obstacles à long terme comme la maturité prochaine des mines de diamants, le vieillissement de la population et le manque de diversification économique et d'activité dans le secteur privé. Sauf, ajoute-t-elle, si nous apportons des changements structurels majeurs. Les revenus autonomes de l'État sont en baisse significative. On anticipe qu'ils s'élèveront à peine à 322 millions en 2021. Avec 2,1 milliards de dépenses à financer, le gouvernement territorial doit emprunter. On envisage que la dette territoriale augmente de plus de 1,3 milliard au 31 mars 2021. On se fie donc au gouvernement fédéral. Les transferts fédéraux comptent maintenant pour 85 % des recettes du territoire. Quelques faits saillants du budget parmi les nouvelles dépenses annoncées, notons une augmentation de 30 millions du budget de la santé. 25 millions de dollars seront alloués aux 22 priorités de l'Assemblée législative. 7 millions supplémentaires sont alloués pour les services à l'enfance et à la famille. On note également que 600 000 $ seront octroyés à la création d'un programme d'éducation menant à l'obtention d'un diplôme en langue autochtone. Sur le plan francophone, 700 000 $ seront alloués à l'éducation en français, une somme qui est toutefois entièrement couverte par le gouvernement fédéral. Le montant va profiter à la Commission scolaire francophone des TNO, également au Collège nordique. Pour analyser ce budget 2021-2022, je rejoins mon collègue Baptiste Foisy, rédacteur en chef de la salle de presse de Média Ténois. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas. Avant qu'on tombe dans le vif du sujet, là, je tiendrai simplement à spécifier que je ne suis là, d'aucune manière un expert en économie ou en fiscalité. Je suis simplement un journaliste là, qui a couvert plus d'une dizaine de budgets pour le territoire du Nord-Ouest. Puis c'est sur la base de cette expérience-là là, que je vais tenter de rendre compte de ce budget là, qui, au moment de l'enregistrer le segment, vient à peine là, d'être présenté en chambre.
Oui, bon, c'est important de le préciser. Alors Baptiste, qu'est-ce que vous retenez de ce second budget de Caroline Vazonek?
Bien Thomas, j'en retiens que, même s'ils étaient très jolis, les souliers de la ministre des Finances, j'aimerais pas me trouver dedans aujourd'hui. La ministre des Finances est en fâcheuse posture, en fait. Bon, on comprend qu'elle a des ambitions, que le gouvernement-là veut réaliser des choses, mais il se trouve avec une situation où il y a une baisse des revenus, il y a une augmentation des besoins dans un contexte de crise sanitaire et économique, il y a une incapacité, bien sûr, de hausser les revenus de taxation parce que ben, ça serait odieux alors que les gens ont moins d'argent dans leur poche d'aller leur en chercher plus. Oui. Ça serait un suicide politique de faire ça. Et en plus de ça, il y a un contexte là, de dégringolade économique au territoire du Nord-Ouest avec la maturité des mines de diamants, aussi une baisse de la population. Tout ça fait en sorte que le contexte est vraiment défavorable. Et là, la ministre des Finances, elle est essentiellement acculée au pied du mur. Elle veut se faire rassurante. Elle dit qu'elle a cet optimisme prudent. Elle est dans un contexte où elle n'a pas vraiment les moyens de ses ambitions. Elle doit donner à une population qui est très demandante. Et en même temps, elle n'a pas vraiment la capacité de le faire. Alors effectivement, c'est une situation économique très difficile et je pense pas que c'est la faute à la gestion de ce gouvernement-là, mais plutôt à la conjoncture.
Et Baptiste, dès le départ, le gouvernement de Caroline Cochrane s'est affiché comme une administration du changement, un gouvernement progressiste. Est-ce que ce budget reflète ces ambitions-là?
Bien, le budget fait montre d'une volonté d'investir dans des programmes sociaux, par exemple. Il y a quand même plusieurs investissements, que ce soit pour les familles, pour le système d'éducation, on injecte des sous pour les langues autochtones. Il y a clairement une volonté d'être un gouvernement plus progressiste, plus social, mais ils sont freinés par leur manque de moyens. Là, ils peuvent seulement accorder de petits montants à ces priorités. Quand on regarde les 22 priorités que le gouvernement s'est données, ce qui était moins que le précédent gouvernement, ils s'en ont quand même donné 22. Bien, dans ce budget-là, on voit qu'il y a 25 millions de dollars qui sont accordés pour ces priorités-là. Ça peut vous sembler beaucoup, là, mais divisé par le nombre de priorités, là, ça fait pas cher.
Ça fait vraiment pas beaucoup.
Non, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des pinottes, Thomas. Alors, ils veulent réaliser leurs ambitions, mais ils n'en ont pas les moyens.
Et Baptiste, plusieurs l'ont déploré haut et fort récemment, là, l'absence d'un plan de relance économique clair. Baptiste, est-ce qu'il s'agit d'une erreur selon vous?
Ben, est-ce que s'agit d'une erreur? Ça va leur être reproché, ça c'est évident. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Les gens vont dire, mais où est l'argent pour le plan de relance? Il y a assez peu là-dedans. Là. Un plan pour le tourisme qui était déjà budgété et aussi un plan pour l'industrie minière, pour la promotion de l'industrie minière, mais rien dans le fond qui va directement dans les poches des entrepreneurs qui ont été éprouvés par la crise. Évidemment, ils vont se le faire reprocher, mais est-ce qu'ils avaient le choix de faire ça? Ils n'ont pas réellement les moyens. Où est-ce qu'on irait chercher ces revenus-là pour redonner aux entrepreneurs? Ça semble un peu de la pensée magique de penser qu'on va inventer cet argent-là. Le message semble être pour ces petits entrepreneurs de se tourner vers le fédéral, qui, eux, ont des programmes qui sont prêts à dépenser. Et d'ailleurs, c'est essentiellement ce que fait le gouvernement des TNO pour équilibrer ses propres finances. Ils se tournent vers le fédéral.
D'ailleurs, la première ministre, Caroline Cochrane, s'est engagée en chambre cette semaine à remettre sous peu un plan de relance économique, à le soumettre à un comité permanent de l'Assemblée législative, mais pas nécessairement durant cette session d'hiver. Baptiste Foisy, merci beaucoup pour cet éclairage.
Je vous en prie, Thomas.
Dans le hall de l'Assemblée législative, tout de suite après la lecture et le dépôt du fameux document par la ministre des Finances, plusieurs députés s'entendaient pour parler d'un budget de statu quo. Parmi ceux qui ont été interrogés, certains se réjouissent des ressources octroyées dans les secteurs de la santé et des services sociaux, mais d'autres soulèvent de sérieuses inquiétudes quant aux importantes dépenses incluses dans ce budget. Le député de Framley, Kevin O'Reilly, se dit d'abord heureux qu'il n'y ait pas eu de coupe importante dans les programmes et services.
If this had been 4 years ago under the previous cabinet, we would have seen that, so I'm thankful for that.
Il y a 4 ans, sous l'ancien gouvernement, ajoute-t-il, ça aurait sans doute été le cas. Il y aurait eu des coupes importantes dans les programmes et services. M. O'Reilly a toutefois mis l'accent sur le niveau de dépenses qu'il juge aberrant de la part du ministère des Finances. Il souligne que les territoires du Nord-Ouest s'approchent dangereusement de leur plafond d'emprunt. Nous en sommes à 1,6 milliard à l'heure actuelle, a-t-il souligné. Le plafond d'emprunt est de 1,8 milliard.
We're in deep, deep trouble, and I don't detect any solutions from the minister other than saying, well, we're going to review departments and try to get them to become more efficient and effective. It's not going to cut it.
La situation est donc extrêmement préoccupante aux yeux de Kevin O'Reilly, pour qui la ministre des Finances n'aurait aucune véritable solution à proposer à l'heure actuelle. Le député de Yellowknife Nord, Rylan Johnson, abonde dans le sens de son collègue.
I mean, I guess the first point is we're projected to hit our debt ceiling and we're adding 350 positions. So there's a bit of a disconnect with reality. We're presented a budget with no plan of how we're actually going to get our spending in line or no plan of how we're going to economically recover from.
Nous prévoyons d'atteindre notre plafond d'emprunt, souligne M. Johnson, mais ajoutons tout de même 350 postes. Il y a une sorte de rupture avec la réalité à ses yeux. Selon lui, ce budget n'offre aucune direction vers une véritable relance économique. D'autres députés dirigent leurs attentions vers les solutions à plus court terme aux enjeux de santé et de services sociaux. C'est le cas de la députée d'Inuvik-Twin Lake, Lisa Semler.
A lot of the departments, it's a status quo budget. I'm excited to see a lot of the things in health because we know we have a lot of issues in health and we know we have a big deficit in health every year. So hopefully getting on top of that deficit and implementing some of these new positions within the healthcare system.
Je suis heureuse des allocations en santé, indique la députée d'Inuvik-Twin Lake, sachant que ce secteur porte plusieurs enjeux et qu'on y déplore d'importants manques chaque année. Espérons que le territoire pourra surpasser ces manques, ajoute-t-elle. Elle souhaite aussi que certains des nombreux postes qui ont été inclus à ce budget soient alloués au secteur de la santé et des services sociaux. Aux yeux de la députée de Great Slave, Katrina Nokolby, les prochains mois s'annoncent difficiles pour le bien-être des résidents. Elle souhaite aussi voir plus d'argent alloué aux organismes non gouvernementaux.
Starting to get really concerned about what the next six months are going to look like for the territory. You know, sort of the vaccine was the holy grail of, you know, it's supposed to open us back up and let us get back to our normal life, and that's not really what we're hearing now. So I think we really need to be prepared that we're having a mental health sort of, I don't want to use the word crisis, but, you know, we're going to see an escalation in mental health needs.
Katrina Nokolby se dit particulièrement préoccupée par les six prochains mois, sans promesse d'un retour à la normale après la campagne de vaccination. Elle dit croire que le territoire doit se préparer à un accroissement des besoins en matière de services liés aux problèmes de santé mentaux et de consommation. Pour sa part, le député de Toonaidé-Willidé, Steve Norne, compte se positionner en représentant des petites collectivités. Sur ce plan, il dénote une certaine amélioration quant aux ressources allouées à l'extérieur des grands centres.
You know, the first two budget addresses, I was really disappointed because I'm considered a small community MLA. But this time, it was a better response to what the needs are in small communities, and we started seeing a little more go spill down to the grassroots level.
C'est mon troisième budget, souligne M. Norne. Les deux premiers étaient très décevants à mes yeux, souligne-t-il, mais ce budget semble mieux répondre aux besoins des petites collectivités. Les médias font régulièrement état des plaintes du peuple Inuit face à la GRC. Des incidents captent l'attention. On se souvient par exemple d'une vidéo qui était devenue virale dans laquelle on voit un policier du Nunavut happer un citoyen en état d'arrestation avec la portière de sa voiture en marche. L'Association des femmes Inuites du Canada, Pauktutit, ont obtenu récemment un engagement qui ouvrirait la voie à une GRC culturellement compétente et sensible au traumatisme. Pour en parler, j'ai avec nous Denis Laure. Bonjour, Denis.
Bonjour, Thomas.
Donc, Denis, la GRC a signé le 27 janvier une entente avec l'Association des femmes inuites du Canada, Pauktutit. Dans la foulée, la GRC accepte toutes les recommandations de l'organisme pour réconcilier les relations entre les Inuits et la police.
Oui, c'est une entente qui est valide pour l'ensemble de l'aire Inuit, le Nunangat, donc pour les TNO, le Nunavut et le Nunatsiavut. Le Nunavik, où opère le corps de police régionale Ketsivik, est exclu de l'entente. L'entente, ça s'appelle Pinasukatiginik, ça veut dire collaborer au bien commun. Puis c'est d'abord un plan de travail, un protocole de communication entre les dirigeants de Pauktutit et ceux des divisions de la GRC en place dans le Nunangat. On ne va pas rentrer dans les détails, mais les parties conviennent de se rencontrer régulièrement et de faire le point sur la réalisation de l'application des recommandations.
On parle de 15 recommandations formulées dans un rapport paru en janvier 2020. Le rapport intitulé « Contrer la violence fondée sur le sexe à l'égard des femmes inuites, un examen des politiques et des pratiques policières dans le Nunangat Inuit ». En gros, quelles sont ces recommandations?
C'est vraiment pour réduire le clash culturel, pour que la GRC soit mieux adaptée à la région. On parle, par exemple, d'améliorer la formation sur la culture inuite, sur leurs mécanismes de résolution de conflits. On parle aussi, c'est important, de l'embauche par la GRC d'interprètes et de personnel inuit, que ce soit des agents ou des gens civils. On parle aussi d'avoir plus d'agents féminins.
Denis, si j'ai bien compris, il y a certaines recommandations qui sont déjà en place, comme l'embauche progressive de femmes et d'agents inuits, aussi une meilleure formation sur la sensibilisation culturelle et l'humilité. Mais Denis, d'autres choses vont être plus longues à mettre en place.
Oui, ce qui peut sembler peut-être problématique, c'est que Pok Tutik aimerait beaucoup que les agents de police restent plus longtemps dans leur affectation dans le Nord. Si vous voulez, on écoute la vice-présidente de l'organisme, Jerry Sharp.
The two-year timeline, they have the chance to do a second 2 years, but more times than not, they're only there for 2 years. So no sooner they get in to know the community, they're moving to another community, and it's not just in Nunavut, it's also in the Northwest Territories.
Donc, Jerry Sharp, vice-présidente de l'Association des femmes inuites du Canada à Pauktutit, qui indique qu'après 2 ans en poste, les agents de la GRC se voient offrir l'occasion de rester pour un autre 3 ans, mais il semble que la grande majorité d'entre eux ne reste que pour une période de 2 ans. Aussitôt qu'ils connaissent la collectivité, ils déménagent. Et selon ce qu'en dit Mme Sharp, Denis, ce ne serait pas seulement un enjeu propre au Nunavut, ce serait également le cas au territoire du Nord-Ouest.
Oui, bien les statistiques que j'ai obtenues de la GRC, c'est que dans la division V, celle qui est en poste au Nunavut, après 2 ans, il y a seulement 10 % des agents actuellement qui demandent à être réaffectés au Nunavut. Ils s'en vont ailleurs. Alors, c'est quelque chose qui va être difficile, je pense, à arranger. Mais Mme Sharp dit quand même que l'entente, c'est une transformation culturelle dans la politique de la GRC. Dit que l'organisme traite ça comme un acompte de ce que Pok Tutik souhaite voir dans le plan d'action inuit sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On va voir dans combien de temps vont se réaliser les recommandations de l'organisme, mais c'est qualifié de pas dans la bonne direction.
Et donc, la GRC travaille actuellement avec l'Association des femmes autochtones du Canada, donc là, au niveau fédéral, pour créer une entente similaire. Enfin, auditrices, auditeurs, on vous invite à lire l'article complet de Denis Laure dans la présente édition du journal L'Aquilon. Denis, merci d'avoir été avec nous.
Merci, Thomas. Au revoir.
Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest ne recevra pas les doses du vaccin Moderna comme prévu, a-t-on appris cette semaine lors du point de presse sur la COVID-19. Ma collègue Marie-Soleil Desautels est avec nous pour nous donner les détails. Marie-Soleil, quels seront les impacts sur la campagne de vaccination?
Le gouvernement devait recevoir 7200 doses de vaccin cette semaine. Il n'en recevra finalement que 4700, soit 2500 doses de moins. Les autorités devaient recevoir un autre lot de 7200 doses fin février, mais ce sera vraisemblablement moins aussi dans ce cas-là. Il ne sera ainsi pas possible de continuer la campagne de vaccination avec le calendrier prévu. Les autorités prévoient d'abord d'administrer la deuxième dose de vaccin aux groupes prioritaires qui ont déjà reçu la première dose du vaccin Moderna. Cela dit, le gouvernement a décidé d'offrir une première dose aux Ténois qui travaillent dans des camps ou sur le site d'une mine à cause des risques élevés d'importation du COVID via les provinces du Sud. Quelques 12 300 Ténois ont reçu leur première dose contre la COVID-19 depuis le début de la campagne de vaccination et une centaine seulement ont reçu leur deuxième dose.
Et Marie-Soleil, jusqu'à quand est-ce qu'on peut administrer cette deuxième dose après la première?
Selon les études cliniques, la deuxième dose du vaccin doit être administrée entre 28 et 48 jours après la première dose pour un résultat optimal. Cela dit, durant la conférence de presse, l'administratif en chef de la santé publique, la docteure Camille Endola, a dit que des gens du Québec et du Royaume-Uni vérifiaient si les vaccins pouvaient être administrés jusqu'à 12 semaines plus tard. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest va s'ajuster selon les résultats de ces nouvelles études.
Marie-Soleil Desautels, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Les territoires du Nord-Ouest ont une nouvelle commissaire aux langues. Brenda Gauthier a entamé son mandat de 4 ans en janvier. Elle succède à Shannon Goldberg, qui a pris sa retraite l'an dernier. Mon collègue Baptiste Foisy s'est entretenu avec la nouvelle commissaire aux langues. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Baptiste, la nouvelle commissaire aux langues, Brenda Gauthier, commence tout juste son mandat et avec elle, les bureaux du commissariat aux langues ont déménagé à Fort Smith.
Oui, c'est exact. C'est d'ailleurs pas la première fois là, qu'on déménage le bureau du commissaire aux langues. Pendant plusieurs années, là, ce bureau était à Yellowknife avec d'autres offices du même genre, là, comme la Commission des droits de la personne, par exemple. Mais on se rappellera qu'à l'époque où le poste était occupé par Sarah Jérôme, l'office avait été déménagé à Inuvik. Donc, ce n'est pas la première fois. Et c'était aussi une commande du ministère ou de l'Assemblée législative, plutôt, qui avait demandé à ce que la prochaine commissaire aux langues soit en mesure de délocaliser l'office. On est vraiment dans les balbutiements là, de l'implantation de cet office. Elle m'a d'ailleurs indiqué que si on avait besoin de contacter la commissaire aux langues ou le bureau du commissaire aux langues, ben, les mêmes numéros de téléphone, les mêmes coordonnées étaient toujours valides, même si Mme Gauthier elle-même est à la maison à Fort Smith. Et ce qui va être très bien différent, puisqu'on sent qu'il va y avoir du changement à l'office, c'est que la tâche devient un travail à temps plein. C'est la demande de Mme Gauthier de faire cela. On sait que dans les dernières années, les dernières presque 10 ans, c'était un poste à temps partiel. Et bon, il y avait peut-être des dossiers qui traînaient. En tout cas, quand Mme Gauthier a pris possession du bureau, elle s'est rendue compte qu'il y avait plus de tâches que ce qu'elle imaginait, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais Mme Gauthier, là, finalement, est en train d'en apprentissage de son rôle. Assez rapidement, là, dans la discussion que j'ai eue avec elle, je me suis rendu compte là, qu'il allait être assez plus ou moins impossible là, de discuter réellement d'enjeux linguistiques parce qu'elle apprend toujours son rôle.
Donc, elle apprend son rôle. Vous n'avez donc pas insisté, Baptiste, sur les enjeux linguistiques. Si je peux oser cette question, de quoi vous avez parlé?
Oui, bon, excellente question, Thomas. Mais on a parlé de ce que c'est que le rôle d'un commissaire aux langues. Elle s'envisage plutôt comme un arbitre, mais elle a dit que, bon, peut-être que depuis qu'elle a pris le rôle, sa position a changé. Évidemment, j'ai posé la question qui tue quand on parle à la commissaire aux langues des territoires du Nord-Ouest. Est-ce que Mme Gauthier parle une langue autre que l'anglais? Notre échange s'était déroulé en anglais. C'est une question qui préoccupe parce que sa prédécesseure, Mme Goldberg, elle, était unilingue anglophone. Je vais vous laisser écouter la réponse de Brenda Gauthier.
I am not fluent in any other language other than English. I was born and raised in the Daito region. Mm-hmm. South Slavey is my native language. However, I've lost that throughout the years attending different residential schools. And so, and this is exactly why it's important to have this Official Languages Act. You know, it's the preservation of the languages.
La nouvelle commissaire aux langues des TNO, Brenda Gauthier, affirme avoir perdu l'usage de sa langue, l'esclave du Sud ou Dene Zatier, dans les pensionnats indiens. Elle ajoute qu'à son avis, c'est pour préserver les langues qu'un rôle comme le sien est nécessaire. Baptiste, les communautés linguistiques réclament depuis des années que le rôle de la commissaire aux langues soit rempli par une personne qui parle au moins l'une des 10 langues officielles du territoire, autre que l'anglais. Est-ce que d'avoir une autre commissaire unilingue ne risque pas de poser problème?
Bon, ben d'abord, faut voir, Thomas, que Mme Gauthier, à défaut de parler couramment le Dene Zatier, par exemple, ben au moins, elle est elle-même Dene, ce qui va faire quand même une différence, j'ai l'impression, par rapport à Shannon Goldberg, qui, bon, s'était attiré un peu là, d'antipathie là, de certains groupes linguistiques autochtones. Elle était originaire de l'Alberta, c'était une personne non autochtone. Mais j'ai quand même posé la question à Brenda Gauthier parce que c'est ça un peu notre travail. Allez, on va écouter sa réponse.
I don't see it being a barrier because my role is to ensure that the Official Language Act is adhered to. So my role is to ensure that piece of legislation is followed and how we can enhance the services. What I do think is important is like how do I make sure that these the government institutions are providing the services.
Nouvelle commissaire aux langues des TNO, Brenda Gauthier, affirme ici ne pas croire que son unilinguisme sera un problème pour assumer ses fonctions, qui, note-t-elle, consiste d'abord à défendre l'application de la loi sur les langues officielles. Le plus important, selon elle, c'est de s'assurer que le gouvernement respecte ses obligations de service dans les langues officielles.
Et là, Thomas, Brenda Gauthier rejoint ici sa prédécesseur, Shannon Goldberg, qui a toujours dit ça. Elle a toujours dit, ben oui, ça serait bien si je pouvais parler une autre langue. Je comprends que les gens le veulent, mais l'important de ce rôle-là, c'est vraiment de défendre la loi sur les langues officielles. Et à cet effet-là, mon impression que j'ai eue de mon entretien avec Brenda Gauthier, c'est qu'elle est très intéressée par le poste en lui-même et ce qu'il peut faire. Et une des choses qu'elle constate, c'est qu'elle a l'impression que la population ne comprend pas très bien son rôle et ne comprend pas surtout la loi sur les langues officielles.
The one thing that struck me is the lack of understanding of the Official Language Act in the communities throughout the Northwest Territories. I don't think there's a strong sense of what the act that is for the preservation of the language or to ensure that services are available in the communities.
Alors voilà, ben la commissaire aux langues là, qui dit qu'elle est frappée, qu'elle estime être un manque de la compréhension de la loi sur les langues officielles. Elle indique qu'à son avis, les résidents des collectivités ne saisissent pas tout à fait comment la loi peut leur permettre de protéger leur langue ou d'accéder à des services. Je pense que ça va être quelque chose qu'elle va vouloir mettre de l'avant beaucoup, essayer de faire un peu cette éducation populaire sur qu'est-ce que c'est, parce qu'on l'a vu, là, les communautés linguistiques font à peu près pas de plaintes au commissariat des langues officielles. Dans les deux derniers rapports, il n'y avait pas de plaintes du tout. Dans le prochain, on nous dit qu'il y a des plaintes. Toutes ces plaintes-là, ce qu'on a compris, c'est qu'elles viennent de la communauté linguistique francophone et les communautés autochtones, eux, ne font pas de plaintes. Alors, je pense que Brenda Gauthier va s'assurer que ces gens-là, finalement, comprennent ce qu'elle peut faire pour eux, et on aura l'occasion de la voir en action, Mme Gauthier. Elle devra présenter le rapport de sa prédécesseur qui n'est toujours pas tablé à l'Assemblée législative. Ça devrait arriver cet hiver. Et également, elle m'a indiqué qu'elle allait prendre une part active à la question de cette révision de la loi sur les langues officielles.
Ouais, un mandat qui s'annonce actif. Baptiste Foisy, merci beaucoup.
Je vous en prie, Thomas.
Si vous vous êtes promené dans la baie de Yellowknife récemment, vous avez probablement vu la structure d'un château de neige prendre forme. C'est le fameux festival Snow King qui commence bientôt, le 2 mars. En fait, le festival a été rebaptisé cette année. Ce ne sera pas le Snow King, mais le Snow Body. Les organisateurs voulaient concevoir un jardin d'hiver gratuit, mais les autorités de la santé publique leur ont finalement demandé de faire une structure fermée pour être en mesure de contrôler le nombre de visiteurs. Marie-Soleil Desautels, rebonjour à l'émission. Vous avez fait un tour sur le chantier. En quoi le festival sera-t-il différent cet hiver?
Comme le disent les organisateurs eux-mêmes, un invité indésirable, le méchant monsieur COVID, les a forcés à apporter plusieurs changements. Par exemple, il n'y aura pas de spectacle ou d'activité culturelle afin de respecter les règles de santé publique. On s'en souvient, il y avait parfois jusqu'à 250 personnes qui pouvaient fêter dans le château ces dernières années. Aussi, pour que l'air circule au maximum, il n'y aura aucun toit de neige ou en toile. Comme il y aura un nombre limité de personnes à l'intérieur, les organisateurs songent à mettre en place un système de réservation en ligne pour visiter le château. Celui-ci ne sera ouvert que de midi à 17h et pas le lundi. Il n'y aura aucun événement en soirée. Les organisateurs n'ont pas encore décidé s'il y aurait des frais d'accès et ils vont prendre la décision lors de leur prochain conseil d'administration.
Et est-ce que le château va être plus petit cette année à cause de méchant monsieur COVID?
Et non, ses murs s'étireront sur 30 mètres par 45 mètres et s'élèvent déjà à 3 mètres de haut. Il y aura deux glissades, l'une pour les petits et l'autre pour les grands. Ces glissades sont très prisées par les familles lors du festival. Une équipe de 7 ouvriers, dont certains sont charpentiers, érige le château depuis le 1er janvier et 5 sculpteurs l'enjolivent depuis peu.
Et quel sera le thème du festival cette année?
Cette année, ce sont les dinosaures qui seront à l'honneur. L'une des sculpteurs s'affairait d'ailleurs à créer un tricératops durant mon passage sur le chantier. D'ailleurs, en remplacement du Symposium international de sculpture sur neige, on propose cette année une compétition ouverte exclusivement aux sculpteurs d'ici.
Malheureusement, pandémie oblige.
Et oui, donc les Ténois participants devront produire une œuvre à partir d'un cube de neige de 2,5 mètres de côté durant les deux premières semaines de mars. Les organisateurs estiment qu'il y aura une dizaine d'équipes. Je me permets de rappeler que la pandémie a forcé la fermeture prématurée du festival en mars 2020 et en 2019, c'était un redout qui avait immergé les fondations du château, contraignant aussi à abréger les festivités. Donc, on se croise les doigts pour que l'édition 2021 soit sans encombre.
Ben, je disais malheureusement, mais le festival va de l'avant malgré tout. Marie-Soleil Deshôtels, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'initiative du journalisme local. Je souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.